Le peuple est en exil. Tout ce en quoi il avait mis sa confiance s'est écroulé. Il n'a plus la terre promise, il est en dehors. Il n'a plus le temps pour faire des sacrifices. Il ne peut plus aller prier là où il voulait prier habituellement. Il n'a plus son droit. Il a toutes les raisons de penser que tout s'écroule. La période que nous vivons est aussi un peu déstabilisante. Et des fois, on peut se demander mais qu'est-ce qui tient ? Et dans ce contexte difficile, Isaïe prend la parole et il appelle le peuple à la foi. Il commence par cette phrase très forte, il parle à Dieu, « C'est toi, Seigneur, notre Père. » On dit facilement que c'est avec Jésus qu'on peut s'adresser à Dieu comme Père. J'avais fait une étude sur tous les endroits où il était question de Dieu comme Père, dans la Bible, et dans l'Ancien Testament, on trouve un certain nombre de moments, comme celui-là, où on parle de Dieu comme un Père. Mais, dans l'Ancien Testament, c'est chaque fois pour dire « T'étais notre Père, mais nous on s'est éloignés. » Là, c'est « Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs sans souci et ne plus te craindre ?» Et souvent, la mention de Dieu comme Père, c'est dans la bouche du prophète, dans les passages où il parle du Messie. Dans les passages où il annonce un Messie comme si, justement, il y a un lien entre la possibilité de s'adresser à Dieu comme Père et la présence du Messie. Donc, Isaïe a conscience que Dieu est Père, mais la relation est cassée, est coupée, on s'est coupé de Dieu. Alors, Isaïe, il a cet appel fulgurant. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Ah, si tu venais, Seigneur, si tu te faisais proche. Mais l'avant, c'est ce temps justement où on se prépare à faire mémoire que Dieu n'est pas resté loin, qu'il a pris cher, qu'il s'est fait proche, qu'il a déchiré les cieux, qu'il est venu. On peut se préparer à Noël, à se souvenir et préparer un cœur à cet événement. Et puis il y a Paul qui s'adresse aux Corinthiens et qui leur dit « En Jésus, vous avez reçu toute la richesse, toute celle de la parole et de la connaissance de Dieu. » L'avance, c'est ce temps où on veut prendre plus conscience du don phénoménal que nous avons reçu. En Jésus, nous avons reçu la parole de Dieu, c'est les paroles, Dieu c'est les proches. Et Paul ne se contente pas de faire mémoire de la lumière de Jésus. Il dit en même temps, si tu peux et Paul, il ne se contente pas de faire mémoire de Jésus qui est venu. Il dit, c'est lui qui nous fera tenir fermement jusqu'au bout. Et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul, il veut nous préparer à la venue de Jésus, à la venue finale. Et l'avant, c'est pas seulement. On va pas faire notre place de chant. Donc Paul, non seulement il fait mémoire que Jésus est venu, mais il dit. Il va venir. Toute notre vie est appelée à être élan vers un amour final avec le Père, avec le Christ. Et en même temps, l'amour final, c'est aussi la capacité à l'accueillir jour après jour. Et c'est la parole de Jésus dans l'Évangile. Jésus est encore avec les disciples. Et il est prêt au fait qu'il ne sera plus avec eux complètement, directement. Et il prend cette parabole d'un homme parti en voyage qui confie sa maison à ses serviteurs qui donnent à chacun sa tâche. Je trouve assez extraordinaire la confiance de Jésus. Il nous confie le monde. Il s'en remet à nous pour bâtir son royaume. Il s'en remet à nous pour être signe de cet amour. Il s'en remet à nous pour aider tous les hommes et les femmes à vivre dans cette relation de plus, aujourd'hui et à venir. Et trois fois, il y a ces mots, veillez. Veillez. Vous ne savez pas le jour, vous ne savez pas l'heure. En fait, si on se souvient bien de l'évangile de dimanche, on sait parfaitement le jour. Enfin, le jour finalement. Mais dis-moi jamais, c'était quand est-ce qu'on t'a vu? Tu avais faim, tu avais soif, tu étais nu, tu étais en prison, tu étais malade. Quand est-ce qu'on t'a vu? Quand est-ce qu'on t'a visité? Quand est-ce qu'on t'a nourri? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Entrez en avant, fermez-moi, se préparez à fermer la tenue de Jésus à l'événement. Ravivez-le, le désir de la rencontre finale avec lui et se rendre plus capable de reconnaître au jour le jour, c'est justement être attentif à nos frères. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est le Christ. Je viens de passer 4 semaines donc, à l'État des Oumanis dans notre service fermé de personnes démentes. Alors ça donne des dialogues assez extraordinaires. Mais j'ai du mal à arrêter parce que de fait, c'est vraiment le privilège pour rencontrer Christ. De reconnaître dans celui qui, aux yeux des hommes, est très différent quand même, de dire mais c'est Christ là. Et recevoir d'eux, au-delà d'être collectif, beaucoup d'amour. Et dans ce temps d'avant, comme tous les années, nous sommes appelés à être attentifs aux autres, à préparer nos cœurs à Noël, c'est sans encore plus attentif à nos frères et sœurs que nous croisons. La pandémie a non seulement des conséquences sanitaires, il y a des gens qui sont malades, mais il y a des conséquences très fortes au niveau social, des gens perdent leur travail ou sont en angoisse, des gens n'arrivent plus à vivre. Je vous avais parlé juste avant le confinement de cette famille sans papier, qui habite un 7 mètres carrés, qui paye 350 euros par mois et qui n'arrive plus à payer, qui est enceinte. Et cette femme est en France parce qu'elle a découvert le Christ. Et que ce fait qu'elle ait changé de religion dans son pays a fait qu'elle ait été persécutée, martyrisée, violée. Et autour de nous, il y a plein de gens comme ça en souffrance. Un certain nombre sont aussi en souffrance psychologique et nous, sans doute, sans même toujours nous rendre compte. Je vois parfois les tensions très vite entre des gens parce qu'il y a comme une pression autour de nous. Alors, ce genre d'avance, si ça pouvait être un temps d'attention aux autres autour de nous, dans la rencontre de l'équipe de coordination de l'OMA, on a essayé de prendre un temps chacun pour nous mettre des visages. Parce que c'est facile de dire la vague de misère. Mais c'est autre chose de prendre un cahier et d'essayer de dénoncer qui autour de moi qui souffre plus. C'est qui autour de moi qui me voit bien. C'est à qui que je dois rendre une visite. Avec la distanciation, je vois par exemple des personnes âgées qui ne sortent plus. Il faut que quelqu'un aille voir en disant d'accord avec la peur, d'ailleurs d'accord avec la conduite, mais si tu marches pas dans ton endroit, ça va être pire que tout. Donc en même temps, il y a plein de démarches à faire pour aider les gens à sortir. Et puis donc nous entrons dans ce jubilé, à 50 ans présents des sœurs Sparines. Et ça vaut avoir avec le mystère de Noël, une communauté de sœurs qui portent l'aide avec tout le monde, qui ont les mêmes professions que tout le monde, ou qui aident dans la paroisse. Ça ne fait pas de bruit, ça ne se voit pas. Mais que de nous, quel signe! Donc nous voulons vraiment rendre grâce pour 50 ans de présence des sœurs de la Sainte Famille. 50 ans de ce baptême en Église, mais surtout de notre présence, c'est pas banal. Donc pendant toute l'année, on va se préparer à faire la fête dans les 5 et 6 juin, mais il y aura plusieurs étapes. La première étape, c'est aujourd'hui, messe unique, passage de la porte de la. Du jubilé, pour dire que c'est une démarche de réconciliation aussi. Donc finalement, c'est 3 mois, c'est peut-être 4 s'il y a tout le monde demain à 20h30. Mais ça ne nous empêche pas d'entrer au jubilé. Il y aura une autre étape en janvier, ce sera l'assemblée paroissiale. On regardera, on va faire des interviews de gens qui ont ne sont pas dans la prise. On a des différentes associations, des municipalités aussi, pour réfléchir à la grande base ici sur le quartier.